frère bibliothécaire. Peut-être nous permettriez-vous d'examiner le travail des deux infortunés qui ont été si douloureusement rappelés à Dieu.
Votre requête est bien inhabituelle.
Les circonstances de leur mort le sont tout autant.
Eh bien, on va mener l'enquête ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question de séminaires, de pickpockets, d'homosexualité, du cap et même de pêche miraculeuse. Plateau série télé avec les scénaristes David Elkaïm et Vincent Poimiro, les auteurs d'Ainsi soit-il, une série ancrée dans la vie d'un petit séminaire pour une série pas forcément très catholique, Benoît Lagan.
Et avec cette saison 2, plus haletante et intérieure encore, Poimiro et Elkaïm, les jeunes scénaristes, ont repris leur bâton de pèlerin afin de confronter leurs personnages à leurs démons intérieurs, Ainsi soit-il.
Une série de jeunes mots, c'est fantastique.
Ah, j'adore ça.
Hein, RTL vous attend. 19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme un film méconnu du cinéaste Nicolas Rey. 19h35, plateau polar avec Deon Meyer qui signe Cobra, un thriller sud-africain pour une enquête mondialisée. Benoît Lagan.
Nouvelle occasion pour le maître du polar de Cape Town de signer une nouvelle enquête et redisposer les cartes des rapports nord-sud dans une enquête rythmée et montée comme un film de cinéma.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfez. Mais jusqu'à quand?
Il est maintenu dans sa dégradation déjà, donc attendez, bon. Et en plus, il est maintenu au niveau peut-être du ministère de la Culture déjà qu'il était affaibli, mais il n'est pas maintenu au niveau des collectivités locales et territoriales. C'est les premières qui vont être moins aidées par l'État, et bien elles vont réduire où elles vont réduire en premier, c'est sur la culture et le sport. Il n'y a même pas besoin d'être devin et de lire dans une boule de cristal pour comprendre ça.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et cela, c'est votre son du jour, un son bien frais aujourd'hui.
Un son de l'après-midi, oui, vous entendez Pierrette, une intermittente du spectacle, qui réagit à l'annonce du budget de la culture présenté ce mercredi par le ministère de la Rue de Valois. Un budget qui est donc maintenu au même niveau qu'en 2014 et qui augmente même de 2% sur la création. Mais vous l'entendez, ça n'a pas convaincu Pierrette, car il est vrai qu'il reste néanmoins bien plus bas qu'il y a quelques années. Alors parmi les informations marquantes révélées par ce budget, une hausse de la redevance télé de 3 euros, ce qui la porte à 136 euros, et aussi la confirmation d'une mesure très attendue. Les trois musées français les plus visités, qui sont aussi les musées les plus visités du monde, le Louvre, Orsay et le Château de Versailles, vont progressivement, dans les 3 années à venir, passer à un fonctionnement de 7 jours sur 7, alors qu'ils étaient tous fermés un jour par semaine. Le but, évidemment, c'est d'engranger plus de recettes.
Autre sujet brûlant, c'est la reprise de la mobilisation des intermittents et c'est votre dossier du jour. Alors après avoir perturbé pendant tout l'été plusieurs festivals emblématiques, Avignon, Montpellier Danse et le Festival de Marseille, ils continuent de contester la convention d'assurance chômage signée en mars dernier qui durcit leurs règles d'indemnisation et qui prend effet ce mercredi.
C'est pour ça qu'on avait décidé de cette journée de grève ce mercredi. Alors vous le savez sans doute, pour calmer la mobilisation à l'été et éviter le fiasco du côté des festivals, le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé la mise en place d'une mission de concertation qui a démarré en juillet. Alors toute la question aujourd'hui, c'est est-ce que cette concertation va revenir sur cette convention chômage qui court jusqu'à 2016 et qui a été imposée par le MEDEF ? Les syndicats qui l'ont signée, le MEDEF donc, et aussi la CFDT et FO, refusent qu'elle soit remise en cause. Mais ceux qui ont refusé de la signer demandent son annulation. Eux disent avoir des propositions plus justes, plus redistributives et qui ne coûteraient pas plus cher. Il demande à ce qu'elle soit évaluée, mais par des experts indépendants. Le ministère indique justement cette semaine eh bien, qu'il est enfin prêt à le faire. Un signe a priori de bon augure. Mais pour Marc Slipper de la CGT Spectacle, ça ne suffit pas.
Oui, on est en contact. On a proposé des experts à la concertation. On les a eus au téléphone. Pour l'instant, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de données. Et la vraie question et le vrai débat, c'est quelles données on va leur donner ? Si c'est des données qui sont pré-traitées par l'UNEDIC, nous n'avons pas confiance. Ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse avoir des données qu'on peut recouper avec celles de nos caisses de retraite complémentaires, avec notre caisse de congé spectacle, pour avoir des données réelles. Mais entre nous, soit dit, un chiffrage, maintenant, c'est un boulot considérable. Le démarrer 3 mois en retard, c'est quand même un signe. Qu'on nous dise « bonne nouvelle, ça va démarrer », on se moque un peu de nous quand même. Si c'est ça la bonne nouvelle, on en attendait d'autres. Nous, ce qu'on demande comme bonne nouvelle, c'est un calendrier de renégociation, de remise à plat du régime. Alors ça, on le demande, et ça, on ne l'a pas.
Remettre à plat le régime pour le moment, il n'en est pas question, mais là encore, le ministère semble prêt à évoluer.
Alors oui, petit rappel tout d'abord, depuis 2003 et la première convention chômage négociée de cette façon-là, eh bien c'est le dialogue social qui régit l'assurance chômage. C'est-à-dire que ce sont des conventions négociées entre les syndicats de salariés et le MEDEF qui détient 50% des voix, ce qui de fait lui confère un espèce de droit de veto. Ce système est dénoncé par les intermittents qui demandent une intervention de l'État sur la question. Et pour la première fois, Fleur Pellerin a évoqué la semaine dernière la possibilité, en l'absence de consensus à la fin de cette concertation, eh bien, de recourir justement à la loi. Plusieurs parlementaires de gauche, voire d'extrême gauche, y sont évidemment favorables. C'est le cas de Pierre Laurent, il est sénateur et secrétaire national du Parti communiste.
La responsabilité de Fleur Pellerin, c'est de faire appliquer ce qui figurait dans la lettre de Manuel Valls début juillet. Ça veut dire la remise à plat avec l'examen de toutes les propositions alternatives et pas seulement une discussion qui tourne en rond autour des seules propositions qui ont conduit à la signature de la Convention. Donc la première responsabilité du gouvernement est de faire que cette mission fasse ce pour quoi elle a été créée. Par ailleurs, nous, effectivement, si rien ne se passe, il faudra que nous, les parlementaires de gauche, on prenne nos responsabilités et s'il le faut, pour aller au dépôt d'un projet de loi. Mais vous savez, je ne crois pas à la bonne volonté du gouvernement. Moi, je crois au rapport de force, à la mobilisation sociale et à la mobilisation maintenue des parlementaires de gauche qui sont aux côtés des intermittents.
Et la question reste de savoir si la mobilisation va vraiment reprendre de l'ampleur.
Oui, car certes, la grève de ce mercredi a provoqué l'annulation de deux pièces du Festival d'automne à Paris, Le Capital et son singe au Théâtre de la Colline et Passim au Théâtre de Gennevilliers. Mais il n'était finalement que quelques centaines à défiler du ministère du Travail au ministère de la Culture à Paris ce mercredi. Même si des manifestations étaient prévues dans une dizaine de villes en région, on sait qu'il s'agit seulement d'une mobilisation de reprise. Les intermittents promettent que si aucune mesure majeure n'est annoncée demain, eh bien là, elle reprendra vraiment.
Et l'on passe au brève.
Et l'on ouvre avec la mort de l'actrice Elina Labourdette à l'âge de 97 ans, également danseuse. Elle est surtout connue pour son rôle face à Maria Cazares dans Les Dames du Bois de Boulogne, le film de Robert Bresson. Elle a ensuite rejoint la compagnie Renaud Barrault et a mené une belle carrière au théâtre.
Succès de la Biennale de danse de Lyon.
Cette 16e édition a attiré au plus de 100 000 spectateurs, un taux de fréquentation de 93%. Une édition placée sous le signe de l'histoire de la performance, avec notamment la présence de Yann Fabre, William Forsythe, la compagnie anglaise Davy Yates, le circassien Yann Bourgeois et le futur directeur de la danse à l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied.
Google en plein bras de fer avec les médias allemands.
Le patron de Google Allemagne, Philipp Justus, a annoncé sur Twitter ce mercredi qu'il allait pénaliser plus de 200 médias allemands dans son moteur de recherche en ne faisant apparaître seulement que les titres de leurs articles sans images ni description. Il s'agit de plusieurs grands titres de la presse écrite, mais aussi de sites internet, de radio. Tous sont représentés par VG Media, une coalition formée par plusieurs éditeurs pour faire respecter leurs droits par les grands moteurs de recherche.
Le New York Times licencie 100 journalistes.
Cela représente près de 8% de ses effectifs totaux. Le but, dégager de l'argent pour investir dans le numérique puisque le grand quotidien américain s'est lancé dans une vaste conquête du web. Conquête difficile car le journal annonce aussi qu'il supprime deux des applications lancées en début d'année car elles ne fonctionnent pas.
Merci Zoé Sfez, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. Eh bien on commence.
Le rendez-vous.
Il est grand.
Plateau Capucin avec vous, David Elkaïm et Vincent Poimirot, scénariste de la série Ainsi soit-il. La saison 2, très attendue, arrive demain sur Arte. La première avait fait plus d'1,5 million de téléspectateurs, prix de la meilleure série française au Festival Sérimania au Forum des Images à Paris. Alors, Ainsi soit-il est centré sur les aventures de plusieurs jeunes séminaristes, des apprentis prêtres dont on suit le parcours empli de doutes. À la fin de la première saison, le séminaire des Capucins vivait une crise sans précédent suite à la mauvaise gestion du leader charismatique des lieux, le père Fromanger, qui était joué par Jean-Luc Bidault. Et afin de résumer les épisodes précédents, eh bien on écoute la bande-annonce de la saison 1.
Il est grand le mystère de la foi.
Nous clamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection.
C'est pas l'appel de Dieu que t'as ressenti, hein. C'est plutôt l'appel de la chatte.
J'avais une route toute tracée. Mon choix, c'était pas vraiment un choix. Enfin, je crois.
J'ai rencontré Dieu en prison. C'est là que je l'ai senti pour la première fois. Un regard posé sur moi.
C'est quoi ton désir, au fond ?
Le Seigneur dit, quand mon serviteur m'appelle, je lui réponds. Je reste près de lui dans son épreuve.
Tu es mon cul, ouais. Des matons, c'est tout ce que vous êtes.
Je vais le délivrer. Le rassasier. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière.
Ça, c'était pour la saison 1. Et en début de saison 2, eh bien, l'institution est reprise de main de fer par le père Bosco, Thierry Jiménez. C'est une année tendue durant laquelle il va devoir faire face à la maladie, à la politique d'austérité imposée par la Conférence des évêques de France et par les doutes de plusieurs de ses séminaristes. Pour cette deuxième saison, David Alcaïm, vous souhaitiez parler de moins de choses, mais de manière plus fouillée. Qu'est-ce qu'il fallait retravailler ici qui ne fonctionnait pas dans la première saison ?
C'est vrai que l'idée, c'était de se recentrer encore plus profondément sur les personnages. Et donc de suivre de manière organique ce que les personnages nous vers là où les personnages nous emmenaient. Donc il y a beaucoup moins, on va dire, d'intrigues, mais les intrigues sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus riches, beaucoup plus dramatisées. En fait.
Vincent Pomero ?
Quand on fait une saison 1, on a envie de tout dire d'un coup, et puis on n'était pas sûr que ça continuerait, donc voilà, il y a comme ça une façon de vouloir tout traiter, qui est parfois un peu... qu'on a essayé d'assumer en même temps en saison 1, et en saison 2, on se dit, voilà, maintenant, plus personne ne nous demande de prouver quelque chose, à part les spectateurs qui nous demandent de les emmener encore plus loin avec ces personnages-là, et on a essayé de le faire.
Voilà. Alors, on rentre dans la série, Benoît Lagan.
Oui, ainsi soit-il, est d'abord une série de producteurs, c'est Bruno Nahon qui en a eu l'idée, pour écrire sur un tel sujet, vous êtes beaucoup documenté. Quelles sources vous en étaient le plus utiles, Vincent Amiro?
Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'expérience personnelle. Il se trouve que moi, je ne l'ai jamais caché, je viens d'une famille catholique pratiquante. Donc, j'ai été un insider, mais on va dire dans ma jeunesse. Donc, ça date un peu. Et donc, mais ça permet d'avoir une sensibilité, une compréhension immédiate à la langue de ces gens étranges, on va dire, qui sont en fait comme nous, mais... On s'en aperçoit que si on connaît un petit peu le milieu. Et ensuite, on a beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'avec Bruno Nahon, qui vient du documentaire, lui, est dans une première partie de son existence, et ensuite beaucoup avec David, à partir du moment où David et moi, on est rentrés en écriture, on a rencontré beaucoup de monde. On a rencontré des gens de l'institution catholique qui ont parlé de manière assez libre.
Mais qui ont voulu rester anonymes, je crois. Pour quelle raison ?
En fait, le problème, c'est qu'au départ, quand on s'est annoncé comme voulant faire une fiction sur l'Église de France, en fait, je crois que personne n'y croyait qu'on allait le faire, en vérité, donc, puisque c'était quelque chose de très théorique, comme ça. Donc, j'en parlais de manière assez libre. C'est qu'à partir du moment où c'est devenu une réalité et qu'on s'est approché d'une fabrication, que les gens commencent à dire « Oh là là, attention, on a parlé, mais par contre, vous ne citez pas nos noms. » Voilà. C'est à partir du moment où c'est quand ça commence à être... devenir réellement vrai qu'on allait raconter une fiction à l'intérieur de l'Église catholique.
Voilà. Et comment l'Église de France a perçu la première saison ? David Alcaïm ?
Il y a eu plusieurs étapes, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, la presse catholique, avant même la diffusion, on a eu une presse catholique qui était plutôt bienveillante. Et puis quand
la saison est arrivée,
voilà, quand la diffusion, on a même eu, on va pas le cacher, un prix, le prix du Vatican de la meilleure. Alors c'est très compliqué parce qu'ils ont pas fait la différence entre série et film, enfin unitaire, téléfilm. On a eu le grand prix en fait d'un prix qui est donné au Vatican. À partir du moment où la série a été diffusée, et puis ça a précédé, enfin précédemment il y avait eu les affiches qui étaient un peu dures, enfin un peu provocatrices. À partir de là, il y a eu une espèce de retournement. C'est venu de la CEF, de la vraie CEF, de la Conférence des évêques, qui a envoyé une petite lettre aux évêques, qui a diffusé, pareil, j'imagine, aux prêtres, pour dire, bon, d'une part, cette série, il ne faut pas la regarder, et voilà pourquoi il ne faut pas la regarder. Donc, et au final, on nous a retiré le prix du Vatican.
Et justement, parmi les critiques, il y a Jean-Marie Guénois du Figaro qui écrit... Ce n'est pas moralisme étroit que de critiquer cette série dont le moteur est le scandale, une rupture entre un idéal de vie fondé sur le renoncement au monde et ses trois tentations, sexe, pouvoir, argent. Ce sont là, après tout, les ingrédients de toute fiction. Le problème vient d'un malentendu sur le christianisme, d'où l'imposture. Mettre à la place du christianisme ce qui n'est pas le christianisme. Alors que lui répondriez-vous, Vincent Pomero ?
Non, mais on peut lui répondre que ce que David aussi avait commencé à répondre, c'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout tenté de faire une série contre l'Église, mais ni pour d'ailleurs. C'est-à-dire notre but n'est pas là. Et le problème peut-être de ces gens qui écrivent pour peut-être de manière très orientée parce qu'ils se sentent dedans, c'est que nous, on se sent ni dedans ni dehors. On regarde ce monde-là et on essaie de le regarder non pas pour le critiquer, mais pour s'en servir, pour raconter notre monde. Parce que nous, on est persuadés que l'Église catholique, c'est le monde et que ces séminaristes dont on parle sont nos frères et que tout le monde peut s'y reconnaître dedans. Alors peut-être il y a cette idée dans certains milieux catholiques qu'on n'est pas pareil que les autres et parce qu'on est inspiré par l'Esprit Saint qui nous transforme intégralement et qu'on n'est plus vraiment comme le reste de l'humanité. Alors ça, j'appelle ça du fondamentalisme, en fait.
Voilà. Alors, parmi les séries que vous aviez en tête, il y avait notamment la série Friday Night Lights, qui relate le parcours de jeunes footballeurs dans une ville très pratiquante du Texas. Or, cette série américaine est moins une série sur le football que sur la place que l'Amérique accorde à sa jeunesse dans un pays qui envoie, on le sait, beaucoup de ses jeunes hommes au combat en Irak. En quoi cette série a-t-elle pu avoir un impact en termes d'écriture, David Elkaïm?
Don Meyer a dit quelque chose de très juste avant qu'on parle un petit peu qu'on soit tous réunis, quand il nous a demandé un petit peu ce que c'était que notre série. Il a tout de suite, à peine on avait dit trois mots dessus, il a dit c'est du drama. Effectivement, c'est du drama. C'est-à-dire qu'en France, c'est un genre qui n'existe pas ou alors qui est très en marge comme ça. Mais ce qu'on fait, c'est du drama.
Friday Night. Du dramatique.
Oui, du drama en ce sens que ça raconte les liens entre les personnages, en fait, ça raconte les liens entre les êtres, et parfois c'est tout petit, parfois c'est énorme, ça donne le mélodrame, mais alors peut-être parce que c'est un genre qu'on estime mineur ou honteux en France, nous, pas du tout. Et Friday Night Lights, c'est du drama, c'est du mélo, c'est-à-dire que oui, c'est beaucoup plus une série sur la jeunesse, mais aussi comment ces jeunes deviennent des adultes, quittent leurs parents, quittent leur monde, quittent leur univers, apprennent à grandir grâce à un personnage qui est le coach notamment, mais aussi à travers les relations qu'ils ont entre eux, histoire amoureuse, histoire de filiation, etc. Voilà en quoi elle nous a beaucoup influencé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une espèce de modèle. C'est que ce qui nous intéresse, nous, ce sont les personnages, vraiment les personnages, avec leurs contradictions, avec leurs dilemmes, avec leurs... avec un regard, je pense, parce que la série est belle pour ça, il y a un regard extrêmement humain sur ces personnages. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. On a un regard humain sur nos personnages.
Ben Meyer, à titre personnel, quelles sont les séries télévisées qui vous intéressent ?
The series that I've been watching in the last year, obviously.
Au cours des 12 derniers mois, j'ai regardé Breaking Bad. Ray Donovan. Évidemment, en Afrique du Sud, on regarde les séries américaines. J'ai regardé quelques séries françaises en DVD avec des sous-titres, et j'espère qu'ainsi soit-il, sortira avec des sous-titres anglais. Mais Breaking Bad, Ray Donovan, et puis celle à Washington, là, comment s'appelle-t-elle ? La série politique, là.
House of Cards.
The House of Cards, thank you.
Voilà, that merci. Très bonne série aussi, à mon avis. Et cette série, est-ce que c'est un House of Cards de l'Église catholique ?
Vincent Pomiro.
Nous sommes... En fait, c'est une série, j'ai envie de dire, plus polyphonique et où dans lequel les personnages sont plus contrastés, on va dire. C'est moins une série sur le travail du mal, finalement, dans la société, qu'une série sur la complexité de l'engagement et toutes les ambiguïtés, les difficultés que des gens qui veulent s'engager pour changer le monde rencontrent. Mais on n'est pas loin de la question du politique, évidemment.
Benoît. Oui, c'est la fascination du producteur Bruno Nahon pour le charisme des personnalités de l'Église qui lui a donné envie de lancer cette série Ainsi soit-il. À partir de quel modèle de prêtre avez-vous construit justement la Bible, parce que c'est le terme qu'on emploie pour parler de série télé, la Bible de votre série?
Vincent Pomiro.
On a essayé d'être à la fois cohérent et précis sociologiquement et en même temps inventif parce que c'est de la fiction. Ainsi soit-il, n'est absolument pas un documentaire. Et quand on parlait du pape tout à l'heure, aucun des personnages de la série ne vise à représenter légèrement fictionné, on ne se permettrait pas ça, c'est pas sain, des gens qui sont dans la réalité, comme quand on a un cop show, on ne se demande jamais si tel commissaire est réellement à la BAC à Paris. Bon, bah nous c'est comme ça. Et du coup, on a essayé d'avoir des personnages qui ressemblaient à ce qu'on peut trouver quand même dans le milieu catholique aujourd'hui. Mais de se poser la question de pourquoi aujourd'hui, et c'est un fait, donc quand on appartient plutôt à des catégories plutôt favorisées de la société, on a encore le désir de s'engager dans ce truc totalement inactuel et tellement conflictuel intérieurement par rapport à la réalité du monde que de devenir prêtre, c'est ça qui nous intéressait. Et évidemment, on s'est autorisé un peu de fiction à des endroits importants, comme certains séminaristes, le séminariste José del Sarthe, qui lui sort de prison, vient des quartiers populaires. Voilà, on s'est, et puis, on a voulu aussi, dans les prêtres qu'on présente comme étant en poste et dans la hiérarchie, etc., raconter un peu ce qu'on sentait comme un conflit entre les anciens et les modernes, qui est aussi le conflit que vit notre société aujourd'hui, voilà, entre l'ouverture et la réaction.
Alors, chaque jour, nous demandons à nos invités de nous soumettre une idée de son. Et voici ce que David LKM vous avez choisi.
I've got to make a plane.
Come on, you don't have to go.
Why couldn't you have brought this up last week? 6 months isn't so long. Everybody gets corrupted. Look, you have to have a little faith in people.
Identification de ce son, David LKM, et traduction aussi.
C'est la fin de Manhattan, en fait, de Woody Allen. Alors, je vais revenir sur la fin et la traduction. En fait, c'est un film qui m'a beaucoup accompagné depuis ma préadolescence. En gros, j'ai vu le film quasiment un an après ça. J'avais 13 ans, quoi. Donc, je l'ai vu, en fait, dans une salle pleine au Maroc. Des adultes, et j'étais pour la première fois dans une salle avec des adultes qui riaient à des blagues que je ne comprenais pas, mais qui parlaient de sexe. Et ça devenait plus intéressant que, on va dire, le catalogue de La Redoute que je regardais en cachette, en gros, l'équivalent.
Ah, vous aussi, c'était La
l'équivalent, je ne sais pas si c'était La Redoute ou autre chose, mais voilà.
Peut-être pas les mêmes pages.
Voilà, c'est ça. Là, il y avait autre chose, c'est qu'on parlait de sexe, on en riait, je ne comprenais pas tout, mais je me disais, tiens, ça, c'est intéressant, quoi. Et le film m'a accompagné très longtemps, je l'ai vu énormément de fois, avec, comme disait plus ou moins Serge Danet, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le voyais, j'y découvrais autre chose. Parfois je le détestais, ce film, parfois je l'adorais, voilà. Et la fin notamment, que c'est le personnage d'Alvy Singer, donc joué par Woody Allen, qui quitte en cours de film, de récit, Marielle Hemingway, donc le personnage de Tracy, enfin son personnage s'appelle Tracy. Elle est beaucoup plus jeune que lui. C'est une des choses d'ailleurs où à chaque fois j'ai un problème avec le film. C'est quand même, il pourrait être son père, mais bon. Il quitte donc Tracy pour le personnage joué par Diane Keaton, qui quelques séquences plus tard le quitte à nouveau. Et il se fait une petite séance d'auto-analyse, c'est-à-dire qu'il est avec un magnétophone et un micro, et puis il se pose la question, qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Et puis il fait tout un espèce de déroulé. Il finit par le sourire de Tracy. Là, il se lève de son canapé et il l'appelle, ça répond pas, il court, il va la chercher, il traverse New York comme ça, ou Manhattan plutôt, pour aller la rejoindre dans son immeuble. Et il arrive pile au moment, en fait, où elle va prendre l'avion pour aller en Angleterre faire une école de théâtre, ce qu'il lui avait dit de faire déjà plusieurs fois. Mais tu es trop jeune pour moi, il faudrait que tu ailles. Et là, évidemment, il se prend dans la gueule qu'elle s'en va, en fait, qu'elle fait ce qu'il lui avait demandé de faire. Et la fin, donc, c'est ça, c'est qu'elle lui dit, mais en fait, je vais juste partir 6 mois. Qu'est-ce que c'est 6 mois pour des gens qui s'aiment, quoi? C'est rien du tout. Donc lui, il se prend ça aussi. Au fond, elle lui envoie dans le visage qu'il n'est pas très mature. Alors qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle, il n'est pas très mature. Et la dernière phrase est très, très belle. Elle dit, c'est très simple, hein. Elle dit, tu devrais faire un peu plus confiance dans les autres. Et cette histoire de confiance, moi, c'est une phrase qui m'a porté vraiment, qui me porte encore. Ça ne veut pas dire que je l'applique, je ne sais pas l'appliquer. C'est-à-dire vraiment en amour, en travail, en amitié, c'est un truc qui est très compliqué. C'est-à-dire évidemment la confiance aux autres, dire au fond, on se fait confiance. C'est une chose qui me porte aussi bien pour l'écriture que pour les relations humaines et amoureuses. Voilà. Donc c'est une phrase qui est une espèce de credo comme ça.
Vous saviez tout ça, Vincent Pomeroy, avant de commencer à travailler avec lui ?
On se connaît depuis assez longtemps, alors je ne connais pas la lettre de la chose, mais l'esprit, je commence à le comprendre.
Alors, votre son à vous, eh bien, c'était celui-ci.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents? entre l'absinthe et les grandes messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Vincent Pomiro, identification de ce son.
Alors donc, c'est une chanson de Jacques Brel, hein, ouais. Qui s'appelle Jaurès, non ? Non, mais bon, d'abord, effectivement, moi, c'est une chanson que j'ai écoutée jeune aussi, quand j'étais enfant. Et c'est une chanson qui, d'abord, on peut parler de la forme. Il y a à la fois la théâtralité, donc la forme qui se voit, et en même temps l'empathie. Donc c'est une bonne définition aussi de ce que je peux aimer en art. La forme qui ne s'oublie pas, mais l'empathie aussi. Pas forcément la parodie ou le... Voilà. Et deuxièmement, parce que ça raconte, pour moi, qui n'ai pas connu les grands-parents de Jacques Brel, ça me fait un lien pour savoir comment ça se passait avant. C'est avant quand les gens qui aujourd'hui, du côté par exemple du patron des patrons, nous disent qu'ils veulent notre bien à condition qu'on leur cède tous nos droits. Et comment ça se passait avant quand ces gens-là avaient réellement tout le pouvoir. Voilà. C'est intéressant qu'on ne l'oublie pas aujourd'hui.
Le rendez-vous, la chronique.
David Elkaïm, Vincent Pomiro et Dayon Meyer, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, la chronique cinéma du mercredi de Jean-Marc Lalanne avec ce soir un film culte, c'est-à-dire un film complètement inconnu.
Pas complètement inconnu, mais effectivement pas très connu. C'est le dernier film de Nicholas Ray. C'est un film de 1972 qui s'appelle We Can't Go Home Again et qui sort en DVD chez Carlotta. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est un film de 1972 parce que la grande période de Nicolas Ray, dont la carrière est très courte, elle tient quasiment dans une décennie, c'est les années 50. Et on peut dire qu'il est un peu perçu comme un des derniers grands cinéastes de l'âge classique d'Hollywood, même un des maniéristes, enfin quelqu'un qui arrive à la fin et qui, à chaque genre, va donner un petit peu son chant du cygne, son chef-d'œuvre terminal. C'est ce qu'il fait avec le western, Johnny Guitar, film crépusculaire à souhait. C'est aussi ce qu'il fait avec le thriller, avec Party Girl, un film presque abstrait, baroque, avec des torsions baroques. Alors, We Can Go Again, c'est tout le contraire. Il le fait en 1972, ça fait 10 ans qu'il n'a pas tourné, parce qu'il a été mis à l'écart d'Hollywood après le terrible échec d'une super production qui s'appelait Les 55 jours de Pékin, qui est pourtant un assez beau film. Donc il était un peu perdu, un peu dans la loose, et il décroche un poste dans une université près de New York, et il décide en 72 de faire un film collectif avec ses étudiants. Et entre-temps, il a fait une découverte majeure pour lui, c'est le cinéma expérimental new-yorkais. Il a vu les films de Warhol, il a vu les films de Mekas, et il va clairement s'inspirer d'eux. Et donc, il va filmer ses étudiants. Alors, la forme du film, elle est très, très bizarre, parce que le film est entièrement tourné en split screen.
C'est-à-dire deux écrans. Deux ou plusieurs,
beaucoup plus. Parfois, il y en a huit. Le nombre d'écrans est variable, et les images se répondent entre elles. Et il demande à ses étudiants de jouer des scènes inspirées de leur vie quotidienne, quasiment en impro, il n'y a pas de budget. Enfin, c'est vraiment le contraire des conditions de tournage qu'il a connues à Hollywood, évidemment. Et alors, ça ressemble à beaucoup de choses, ça ressemble à du documentaire, ça ressemble à de l'art vidéo, parce qu'il s'intéressait beaucoup au travail de Nam June Paik, par exemple, et ça ressemble déjà à de la télé-réalité. Donc c'est vraiment très troublant. Et moi, ce que je trouve vraiment très fascinant dans le film, qui est vraiment à la fois fascinant mais pas facile à voir, enfin c'est vraiment un film complexe, c'est que lui qui était dans la mélancolie infinie d'être le dernier dans les années 50, d'arriver vraiment à la fin d'un système, dans l'essoufflement de quelque chose, tout à coup dans le film est porté par la joie enfantine d'être dans un nouveau langage, dans quelque chose qui s'invente, et le film est porté par ça de manière vraiment très très ludique. Et puis au fond, ça lui permet aussi d'être au cœur de ce qui est sa grande question, son sujet, qui est la jeunesse, puisqu'il y a quasiment inventé la question de la révolte adolescente comme sujet de cinéma avec La Fureur de Vivre. Il était très proche de James Dean, et là il se retrouve 20 ans plus tard avec quasiment les enfants de James Dean, c'est-à-dire des jeunes hippies complètement pétris de contre-culture, qui sont contre la guerre du Vietnam, qui font des manifestations tout le temps. Et il est vraiment comme dans poisson dans l'eau, comme dans sa maison, même si le film s'appelle We Can Go Home Again. En fait, c'est comme s'il avait retrouvé ce qui au fond est sa maison, qui est la jeunesse.
David Elkaïm, vous connaissez ce film?
Bah, j'en avais entendu parler, effectivement. Après, moi, le film que je préfère de Nicolas Ray, qui est vraiment pour moi un des chefs-d'œuvre, c'est Le Violent, qui est un anti-film noir et un vrai mélodrame, voilà, que je trouve absolument magnifique, en fait. Voilà, Nicolas Ray, c'est immense cinéaste, Will
de la... Si je peux me permettre, oui. Quand on voit Friday Night Lights, qui est aussi une série que j'adore, on pense souvent à Nicolas Ray dans des affects comme ça très très puissants, dans la question aussi des conflits entre générations.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est juste. Alors peut-être qu'il y a un lien, c'est pour ça qu'on aime Friday aussi.
19-20, le rendez-vous.
Plateau Hoax avec vous, Deon Meyer. Vous êtes l'écrivain sud-africain le plus lu dans le monde, traduit dans plus de 20 langues. Grand prix de littérature policière en 2003, c'était pour Les Soldats de l'Aube. Et vous êtes de passage en France à l'occasion du Festival du Polar de Pau et de l'apparition demain de votre 9e roman Cobra au Seuil. L'histoire en quelques mots, Benoît.
Trois corps sont retrouvés abattus dans une guest house, une sorte de bed and breakfast. Ce sont des gardes du corps d'un client important, un scientifique mathématicien britannique, qui lui a disparu. Et l'inspecteur Benny Grissel part sur ses traces. Et pendant ce temps-là, un pickpocket professionnel est arrêté par des agents de sécurité qui vont être froidement abattus par un tueur à gages baptisé Cobra.
Alors, ce n'est pas la première fois, hein, Deon Meyer, que votre héros fait face à la disparition de touristes occidentaux. C'était déjà le cas dans 13 heures en 2010. Mais encore une fois, l'histoire dépasse le cadre de l'Afrique du Sud car l'enquête va mettre à jour une criminalité financière mondiale. En déplaçant la criminalité de votre récit sur le plan international, qu'est-ce que vous dites de la criminalité de votre pays ? Qu'elle n'est peut-être pas plus importante que dans d'autres pays ? Deon Meyer ?
En Afrique du Sud, depuis quelques temps, on assiste à une chose un petit peu particulière. Il y a de plus en plus de criminels internationaux qui viennent en Afrique du Sud. Ils trouvent que l'Afrique du Sud, c'est un bon endroit pour eux. Il y a une bonne infrastructure. Géographiquement, l'Afrique du Sud est loin de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Et dans ce livre, Cobra, j'essaye de montrer qu'une bonne partie de la criminalité sud-africaine n'est pas celle des Sud-Africains. Donc c'est ça que j'ai voulu démontrer en partie.
Oui, encore aujourd'hui, l'Afrique du Sud a une image violente. Pour autant, vous disiez en 2012 que la criminalité y est tout aussi importante qu'ailleurs, et notamment qu'en France, et qu'elle avait même beaucoup baissé. C'est toujours le cas aujourd'hui en Afrique du Sud ? Deon Meyer ?
Les statistiques de criminalité en Afrique du Sud sont assez glauques. Mais on ne peut pas comparer un pays du tiers-monde et qui a un contexte sociopolitique et historique très spécifique. On ne peut pas comparer l'Afrique du Sud à la France. On pourrait comparer l'Afrique du Sud à la Russie, par exemple. Pays qui a connu des mutations traumatisantes, une oppression politique, puis un régime démocratique disparu, certes. Mais si l'on compare les statistiques de criminalité entre l'Afrique du Sud et la Russie, on ne peut pas faire confiance aux statistiques russe, parce que c'est plus vraiment une démocratie, alors que les statistiques sud-africaines, elles, sont fiables. Pendant 5 ans, les crimes violents ont baissé, mais cette année, malheureusement, les statistiques ont remonté. Et évidemment, ça a une teneur politique particulièrement prégnante. À l'heure actuelle, en Afrique du Sud, nous sommes assez préoccupés parce que personne ne semble savoir pourquoi on n'arrive pas à arrêter ces crimes. La police fait de son mieux, mais n'y arrive pas. Donc, la criminalité en Afrique du Sud, ce n'est pas du tout désirable. Et je dois dire que la préoccupation publique est assez importante.
Alors vous-même, depuis que vous écrivez et signez des polars, vous êtes en contact avec la police sud-africaine. Comment vous travaillez précisément avec eux ? Ce sont simplement des consultants, vous participez à des enquêtes, vous allez sur les lieux ?
Oui, c'est vrai que j'ai de la chance. Je travaille avec l'unité d'élite dénommée The Hawks, qui est présente dans toutes les grandes villes. Les Hawks au Cap sont tout à fait généreux. Je peux passer une semaine, voire davantage avec eux, donc je suis à leur côté et j'assiste à leurs réunions, je participe aux enquêtes à leur côté et ainsi de suite. Et j'ai vraiment l'occasion de les voir travailler, je peux parler avec eux, je peux leur poser toutes les questions que je veux et je dois dire qu'ils ont été très généreux et très ouverts.
Ce sont des réflexes de journaliste parce que vous avez été journaliste avant même d'être écrivain.
Oui, c'est pas faux. Quand on est journaliste, on sait comment aborder les gens et recueillir les informations. On sait protéger ses sources. Donc, vous voyez, évidemment, comme vous le dites, le journalisme, ça vous donne de bons réflexes.
Depuis que vous travaillez avec eux, comment ces policiers regardent-ils votre œuvre ? Quelles critiques positives ou négatives peut-il en faire ? Est-ce que ça aide à l'écriture des autres romans ?
Dans mes livres, j'essaye d'être aussi honnête que possible dans la vie des policiers telle que je la dépeins. Je montre les bons côtés, mais aussi les mauvais. Et je crois qu'ils me respectent pour mon honnêteté. Je ne donne pas de contenu politique à la police, alors que le contenu politique de la police sud-africaine est très, très fort. Et les membres des Hawks que je côtoie apprécient mon honnêteté, ma justesse, ils trouvent que je dépeins bien leur travail. Ce sont des flics absolument brillants, ces types-là. Et 95% d'entre eux sont des gens qui ne sont pas corrompus. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui aiment le travail bien fait. C'est ce que j'essaye de montrer. Et je crois qu'ils apprécient mon travail de ce point de vue-là.
Et qu'est-ce que vous faites des 5 autres pourcents?
Well, I think they don't. Luckily, they don't let me know what they think.
Ils ne partagent pas leurs pensées avec moi. C'est une bonne chose.
You know, in any police force anywhere in the world, there's a small percentage.
Partout dans le monde, évidemment, il y a des pourris. Et l'Afrique du Sud n'est pas une exception. Il y a des ripoux partout. Les Hawks sont une unité d'élite. Par conséquent, ils sont triés sur le volet. Mais il y a néanmoins des membres des Hawks qui ont été connus pour des faits de corruption ou de méfaits.
Benoît. Alors dans votre roman, vos personnages sont issus de différentes communautés du pays. Votre écriture est percée en permanence de mots issus des différents dialectes. Alors dans la version française, même le seuil glisse à la fin du livre en lexique. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs dans la version originale. Qu'est-ce que vous attendez de ces percées ?
Dimension documentaire ?
Ou littéraire ? Don Meyer ?
What I try to do is to... So we have 11 official languages.
Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud. La culture en Afrique du Sud est unique. J'intègre des mots de toutes les langues officielles d'Afrique du Sud pour donner au roman une texture sud-africaine unique, parce que c'est un pays unique. La chose la plus intéressante pour moi là-dedans, c'est que mes enfants sont nés après la fin de l'apartheid et ils commencent à parler une nouvelle langue sud-africaine qui n'existait pas il y a 30 ans. Et il y a des mots de Xhosa, de Zula, de Tswana, de Soutou, d'anglais et d'afrikaans. Ils vont à l'école, ils côtoient des métis, des noirs, et tous ces gamins-là parlent cette nouvelle langue, si je puis dire. C'est une langue qui est née il y a une dizaine d'années et qui est en pleine expansion. Ça me fascine. Et moi, j'essaye d'être honnête, encore une fois, parce que j'essaye de suivre cette évolution en l'intégrant dans mon roman.
Vous parlez 3 langues, d'ailleurs, sud-africaines. Lesquelles ? Et en quelle langue écrivez-vous ? Parce que c'est traduit de l'anglais, mais est-ce que vous écrivez en afrikaans ?
My mother tongue is Afrikaans.
L'afrikaans, c'est ma langue maternelle. Évidemment, je parle anglais, vous avez remarqué. J'ai grandi dans une communauté Soutou, donc je parle Soutou. Je vis au Cap, où il y a surtout le Xhosa. Donc je parle un petit peu de Xhosa aussi. Mais le Xhosa et le Zulu sont 2 langues voisines, donc je comprends pas mal le Zulu aussi.
Benoît. Et quelle énergie, quel rythme littéraire impose chacune de ces langues ?
I'm not sure that they influence the pace necessarily.
Je ne sais pas si c'est le rythme qui est influencé par la langue. Moi, j'essaye d'injecter une dynamique sud-africaine dans mon écriture.
Whenever I come to Europe,
chaque fois que je viens en Europe, je vois que la vie ici est beaucoup plus organisée. Ne m'en voulez pas, mais c'est un petit peu plus terne aussi, la vie ici. L'Afrique du Sud, c'est un pays très dynamique. Il se passe des choses tout le temps. Des choses qui sont bien, d'autres le sont moins, évidemment. C'est pourquoi j'essaye d'intégrer cette dynamique dans mon écriture. C'est le pouls, toute cette vitalité que j'essaye de montrer.
Alors, le livre est extrêmement rythmé, quasiment monté comme un film d'action. On passe d'un lieu à l'autre très rapidement et plus on avance, plus les histoires se croisent. Et alors là, le rythme s'accélère encore. Je me demandais comment vous écrivez, Léon Meyer. Est-ce que vous écrivez par exemple une scène d'un seul tenant et vous la découpez et vous la montez ensuite ?
J'écris le livre comme le lecteur le lit. C'est très important pour moi de faire ainsi. Ainsi, j'écris selon l'expérience du lecteur. Si moi, auteur, je pense que la scène dure trop longtemps, c'est vraisemblable que le lecteur ait la même impression. Donc, le montage, je le fais au fil de l'écriture. L'écriture d'un roman, c'est un petit peu quand on est en voiture la nuit. On voit un petit peu loin, mais pas très loin. On sait où on va, mais ce n'est pas encore en lumière. Même chose pour le lecteur. Les phares de la voiture ne vous montrent pas les choses très éloignées. Donc c'est pourquoi j'écris selon l'expérience du lecteur. J'espère que ça.
Ah, c'est très logique, ça. C'est peut-être une réflexion ou une question de la part de nos deux scénaristes, donc qui travaillent aussi l'écriture, David Elkheim et Vincent Pomiro. Vincent.
Non, moi juste pour parler d'un personnage dont il a été très rapidement question là, c'est le personnage du pickpocket, le jeune Tyrone, qui moi m'a énormément intéressé. Il y a un côté, alors c'est bizarre, dans la façon dont c'est fait, avec cette espèce d'humour, ce personnage qui ne cesse de dialoguer intérieurement avec son oncle, qui a été son mentor, cette précision de la description de son métier comme un art, comme ça, et en même temps cette grande urgence de vouloir aider sa sœur à faire des études. Enfin, il y a un côté Dickens, en fait. Il y a un ton dickensien dans ce personnage que j'ai beaucoup apprécié.
Jusque dans l'humour, oui. Léon Meyer.
It was a very practical thing for me.
En fait, c'est d'ordre pratique. C'est un pickpocket, ce Tyrone, vous l'avez dit. Et je voulais que le lecteur suive son expérience. Il fallait que le lecteur fasse montre d'empathie envers ce Tyrone. Donc il fallait qu'il s'explique sur ses agissements. Mais c'est un pickpocket qui a une certaine moralité. Il ne vole pas auprès des pauvres, ni auprès des métis ou des noirs. Et c'est vrai qu'il aide sa petite sœur pour faire des études. Donc, de cette façon, j'espère que le lecteur ressent une certaine empathie. Si le lecteur n'aimait pas le personnage de Tyrone, le livre ne fonctionnerait pas. Il faut que le lecteur l'aime. Et donc, c'est ce que j'essaye d'intégrer. Donc, c'est d'ordre pratique, ce choix.
Vincent Pomiro faisait référence à Dickens. Je me demandais quels étaient les auteurs qui avaient pu vous marquer avant même que vous basculiez dans l'écriture, vous qui étiez journaliste, Léon Meyer.
À chaque fois que je termine l'écriture d'un livre, je relis le manuscrit et je vois l'influence de Ed McBain, grand auteur de polar américain. Donc, dans mon choix de personnage, je m'inspire de lui. Ed McBain avait un ensemble de personnages et il les utilise, il les convoque à mesure qu'il en a besoin. Ça fait 10 ou 15 ans que je n'ai pas lu de livre d'Ed McBain, mais j'ai une grande admiration pour lui et il m'a beaucoup influencé.
Benoît. Ed McBain qui a influencé une série télévisée dans les années 80, Hill Street Blues, pour information. Chaque jour, nous demandons donc à nos invités un son et voici le vôtre, Dion Meyer. Du son d'Anne Meyer et sa signification.
This is the Marriage of Figaro, Mozart.
Les Noces de Figaro. J'ai choisi ça parce que hier j'étais à l'aéroport, je devais prendre l'avion pour venir en France, je reçois un courriel de mon agent français qui dit il faut que pour aller au rendez-vous, il faut que tu choisisses un son. Mais il ne faut pas que ce soit sud-africain, il ne faut pas qu'il y ait un rapport avec l'Afrique du Sud. Je ne savais pas où je devais venir. Et ce serait bien si c'était une station de rock, parce que j'adore le rock. Et j'adore Mozart. Et j'ai dit, j'adore le blues aussi. Non, pas de rock, pas de blues. Non, pas pour cette radio-là, pas pour cette émission.
Mais c'est n'importe quoi, ça aurait pu être du rock et du blues. Donc si vous aviez eu vraiment le choix,
now you tell me.
Attends, vous me dites ça, c'est trop tard.
Qu'est-ce que ça aurait été?
Oh my word, any really good blues.
Oh, bah, un bon blues. Voilà. Un blues des années 40 ou 50.
Vous êtes journaliste de formation, je l'ai dit tout à l'heure, et vous avez travaillé dans un quotidien Afrikaner. Quelle était la ligne éditoriale de ce journal ?
La ligne éditoriale était en faveur du Parti national. C'est pourquoi je n'ai pas duré, j'ai pas fait de vie aux eaux là-bas. J'ai commencé à proposer des articles sur l'oppression des fermiers noirs. Plusieurs fois, j'ai failli me faire virer. Et je dois dire que pour locuteur d'Afrikaans, il n'y avait pas beaucoup de journaux à disposition. Il y avait celui-là, il y en avait très peu d'autres. L'époque était tellement chargée politiquement, 1981, et l'Afrique du Sud connaissait une difficulté. Mais à cette époque-là, il y a eu un renversement contre le régime de l'apartheid. C'était le début, donc ce n'était pas si négatif que ça. Mais c'était quand même une période où il y avait beaucoup de tensions. Et moi, je n'écrivais pas des articles politiques. Je faisais des articles sur la délinquance, la criminalité. Donc je ne participais pas tellement au paysage politique de l'époque.
Benoît. Le polar en Afrique du Sud est arrivé assez tardivement, au début des années 90. Comment vous expliquez son émergence finalement assez tardive, Don Meyer?
C'est une question intéressante, ça. Ce qui est intéressant, c'est que au moment de l'apartheid, la littérature était assez absente, à vrai dire. La littérature en afrikaans, c'était une littérature de protestation, ou alors c'était des choses à l'eau de rose, mais rien d'autre. Après 92, en Afrique du Sud, dans le milieu artistique, on assistait à une normalisation de la culture. Ainsi, tous les genres dont on pense qu'ils sont normaux, en France, en Angleterre, en Allemagne, tous ces gens ont commencé à arriver en Afrique du Sud. Et les artistes ont commencé à écrire selon ces genres. Le polar, lui, c'est autre chose. C'est difficile d'avoir un policier s'il représente un régime qui est lui-même le mal, parce que l'enquêteur dans le polar, c'est lui qui doit apporter de l'ordre dans le chaos. Comment y parvenir si on représente le mal, autrement dit le régime de l'apartheid? Ça, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles il n'y avait pas de polar jusqu'à très tardivement.
Une dernière question. Vous avez beaucoup parcouru votre pays en moto. Qu'est-ce que vous avez découvert justement de ce pays que vous n'auriez pas découvert d'une autre façon? Et quelle moto d'ailleurs?
It's a BMW GS. It's a dual-purpose motorcycle. It's
une GS BMW. C'est une routière, mais on peut s'en servir sur piste. Et du reste, c'est ça qui est intéressant. On peut prendre des pistes et aller dans des coins très reculés, des coins très sauvages en Afrique du Sud. Et j'ai appris que l'Afrique du Sud, c'est le plus beau pays au monde et c'est le peuple le plus beau au monde. Quand vous allez dans ces petits bleds reculés, quand vous allez voir des fermiers qui sont perdus au bout du monde, eh bien on voit la vraie Afrique du Sud. Et on se rend compte que tous les Sud-Africains ont les mêmes rêves, les mêmes espoirs, les mêmes craintes. C'est ça la grande leçon que j'ai apprise dans ce voyage en moto en Afrique du Sud.
Dans quel milieu avez-vous été élevé?
Vous avez assez de temps là pour que je vous raconte toute ma vie.
Such a difficult thing to explain.
C'est difficile à expliquer. Moi, j'ai grandi dans un petit bled où il y avait une mine d'or. Alors évidemment, c'est le West, c'est le Grand Ouest si vous voulez. Il y a plein de gens qui sont pas très éduqués, ils gagnent plein d'argent. Et donc c'est un cocktail un petit peu volatile, un petit peu explosif. Autrement dit, avec peu d'éducation et plein de fric, il va y avoir des problèmes. Donc c'était un petit bourg où j'ai grandi. Je ne connaissais pas l'existence de l'apartheid. J'avais des amis avec qui je jouais tous les après-midi. Et à l'âge de 14, 15, 16 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette communauté, parce que les Noirs allaient dans un quartier le soir, nous on allait dans un autre quartier, il y avait quelque chose de bizarre qui se tramait là. Avant l'âge de 12 ans, moi j'ai vécu à mes yeux dans une société tout à fait normale. c'est quand ma conscience politique a commencé à s'éveiller que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans cette communauté et dans l'ensemble du pays. Par ailleurs, il est peut-être difficile de comprendre que la société sud-africaine était très isolée. Les livres et les magazines étaient interdits. Tout ce qui était contre l'apartheid, c'était interdit. Donc on n'a jamais vu quoi que ce soit. La télévision n'est arrivée qu'en 76 parce que le gouvernement de l'apartheid avait peur que la télévision puisse corrompre les esprits du peuple. Donc moi, j'ai grandi au milieu de livres, les livres autorisés par le gouvernement, autrement dit, les journaux autorisés, ainsi de suite. Et dans un milieu comme ça, c'est très difficile de savoir qu'il y a un univers complètement différent au dehors, où les gens ont des points de vue politiques complètement différents. Donc c'est très difficile d'expliquer à quiconque n'a pas grandi en Afrique du Sud à cette époque de quoi il s'agissait. Pour moi, c'était la norme, hein, c'était aucun problème. Je pensais que l'ensemble de la planète tournait comme ça. Puis à l'université, par la suite, j'ai menti pour rentrer dans la section spéciale où je pouvais avoir accès à tous ces livres interdits. C'était ma curiosité qui était attisée. C'est la première fois que j'ai compris à quel point on avait manqué de ces informations et accès aux différentes idéologies des différents pays du monde.
Parfois c'est tout petit, parfois c'est énorme, ça donne le mélodrame, mais...
I write the book in exactly the way that you read it.
Merci à nos invités David Elkheim et Vincent Pomiro. La saison 2 d'Ainsi soit-il sera diffusée dès demain sur Arte. Et c'est aussi demain, Déon Meyer, que sortira votre livre Cobra aux éditions du Seuil. Je signale également que vous serez l'invité d'honneur du Festival du Polar de Pau ce week-end. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Bonjour. Bonjour. On va passer une demi-heure ensemble. Une belle demi-heure. Alors il faut ça chaud. Allez, on y va. On commence par l'échauffement.
Demain, émission Page de la Redoute, non, salle de gym avec l'actrice Marina Foy, ses documentaires historiques avec Claude Ventura. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Adrien Azelli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture, Zoé Sfez, chronique cinéma, Jean-Marc Lalanne, à la technique, Jean-Guilain Meige, à la réalisation, Thomas Beau et à la traduction, Xavier Combes. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.